BW. Magazine Santé.
Bien manger pour mieux vivre, bien manger et bien vivre, oui. Oui, parce que c'est nécessaire et primordial pour notre bien-être. Pourtant, beaucoup parmi nous ont connu une maladie liée à l'alimentation. Pour éviter de souffrir d'une telle maladie, il est donc important de s'assurer que les aliments que nous mangeons ne soient pas contaminés par des bactéries, des parasites ou bien des produits toxiques. Quelles sont les précautions à prendre afin d'améliorer la qualité de nos aliments? On en parle avec le professeur Nicolas Barrault au téléphone depuis Ouagadougou. Bonjour, professeur Nicolas Barrault.
Bonjour, madame.
Vous êtes microbiologiste, spécialiste de l'hygiène alimentaire et responsable du laboratoire d'épidémiologie et de surveillance des virus et bactéries transmissibles par l'eau et les aliments à l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Merci d'avoir accepté de nous accompagner dans ce magazine. Bienvenue à toutes et à tous, Nafissa Amadou au micro pour vous présenter ce troisième volet de notre série Santé et Nutrition. Avec 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire par an selon les estimations de l'OMS, les aliments impropres à la consommation représentent une menace pour la santé humaine. Alors, professeur Nicolas, j'ai une question toute simple à vous poser. C'est quoi un aliment contaminé?
Alors, il faut dire qu'à cette question, répondre directement, ça ne va pas permettre aux auditeurs de comprendre. Je dirais d'abord qu'un aliment contaminé est un aliment qui a été souillé suite d'introduction ou de présence involontaire d'un contaminant. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est qu'un contaminant? Donc, je dirais que les contaminants peuvent être d'origine endogène, ça veut dire propre à l'aliment, ou également exogène, ça veut dire venant de l'environnement. Il y a des contaminants chimiques. Dans l'environnement, on peut trouver des métaux lourds qui ne sont pas bons pour la santé. Et il y a les contaminants biochimiques qui peuvent être des toxines. Et il y a le grand groupe qui est constitué, bien sûr, par les contaminants biologiques. Là, on s'adressera maintenant aux bactéries, aux virus, aux protozoaires.
Ces bactéries, on les trouve où? Dans la viande, le poisson?
Ces micro-organismes sont partout. C'est notre environnement, nous vivons avec. Alors, il faut dire que tous les micro-organismes ne causent pas de maladies. Et on s'adresse là aux micro-organismes qui causent des maladies. Et malheureusement, ils se trouvent dans un environnement ou dans des biotypes, ça veut dire qu'ils peuvent loger sur certains organismes qui sont aussi des animaux. Et de ces animaux, le passage se fait facilement à l'homme à travers un mauvais traitement ou une mauvaise pratique en matière d'alimentation ou en matière de préparation des aliments. Donc, ils contaminent l'aliment et se retrouvent alors être ingérés par nous. Et c'est là qui peut causer les dommages.
Professeur, comment prévenir les maladies d'origine alimentaire?
Je pense qu'il y a ce qu'on appelle classiquement la sensibilisation et la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène de tous ceux qui sont dans le secteur de l'alimentation. Alors, en Afrique, la situation est compliquée parce que nous avons un secteur informel de l'alimentation où les gens font le travail de l'alimentation sans avoir une formation en matière de bonnes pratiques d'hygiène et de bonnes pratiques de fabrication ou préparation des aliments. Et donc, du coup, on est confronté à la contamination récurrente des aliments.
Il y a aussi les contrôles sanitaires.
Et les contrôles sanitaires existent. Nous l'avons même dit dans beaucoup de nos opérations. Il faut qu'on arrive à faire ces inspections, nous disons des inspections inopinées de tout ce qui est secteur, de tout ce qui est unité de fabrication et de production d'aliments. Et ça doit être fait, bien sûr, par des inspecteurs d'hygiène qui ont des checklists. Donc, il y a un certain nombre de points qui vérifient et ils regardent également l'opérateur parce que l'opérateur, le préparateur d'aliments, ne doit pas aussi avoir certaines maladies car il peut avoir la contamination.
Professeur Nicolas, les infections causées par les aliments contaminés ont des répercussions beaucoup plus graves, notamment chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Le principal problème à chaque fois, c'est la diarrhée. Mais jusqu'où une maladie d'origine alimentaire peut-elle être dangereuse?
Je vous dirais tout de suite que toute maladie d'origine alimentaire est d'office une maladie très dangereuse. Il faut dire que toutes les couches socio-économiques, toutes les tranches d'âge sont touchées par ces infections, mais à des degrés divers. Les populations pauvres, comme vous l'avez dit, les enfants, les femmes enceintes, les immunodéprimés, les personnes âgées sont les plus touchées. En effet, vous voyez, l'organisme ou le système immunitaire qui est en train de se mettre en place, généralement chez l'enfant, n'est pas encore bien aguerri pour attaquer, pour se défendre. Et aussi, l'organisme ou le système immunitaire, de façon générale, l'organisme, chez les personnes qui sont dans un état physiologique fragilisé. Et bien sûr que l'organisme à ce niveau va se défendre également difficilement.
Chez les femmes enceintes, ça peut même provoquer des avortements.
Oui, ça peut provoquer des avortements parce qu'à un stade de la grossesse, lorsque vous avez une toxi-infection, avec beaucoup de diarrhée, ce n'est pas bon.
Pour illustrer ce que vous dites, nous allons partir en République centrafricaine où malheureusement la contamination alimentaire reste l'un des principaux problèmes de santé et de bien-être qui affecte non seulement des adultes, mais aussi et surtout les jeunes enfants. Aussi, l'exploitation de l'or à Bozoum dans le nord du pays a de graves conséquences sanitaires au sein des populations riveraines. Suivons ce reportage à Bangui de notre correspondant Jeff Murphy Barès.
Le cas le plus dramatique de contamination liée à la pollution ou à des produits chimiques que le pays ait récemment connu est celui de juin 2019. Des activités d'extraction d'or par des sociétés minières chinoises à Bozoum, dans le nord de la République centrafricaine, ont provoqué une pollution au mercure des eaux de la rivière Ouam, selon un rapport de la commission parlementaire. Bernard Dila, secrétaire parlementaire, explique comment le désastre s'est produit.
Les conséquences sur la santé des populations est là. Les gens ont des démangeaisons quand ils utilisent de l'eau du fleuve. Les gens, des femmes ont des avortements. Donc c'est un dégât aussi humain qui est en train de se vivre là-bas.
Au-delà de ces cas graves, il y a ceux liés à l'alimentation. Eloge Sabé, aujourd'hui père de 3 enfants, a fait la crise dans son jeune âge. Il s'est remis de sa contamination suite à une admission à l'hôpital.
J'avais l'âge de 8 ans par là. On m'a servi une nourriture qui contenait des produits toxiques. Après avoir mangé, je sentais des malaises, je vomissais. Puis après, je suis tombé dans l'agonie. Puis heureusement pour moi, mon papa est arrivé dans un état presque mourant sur le canapé. Puis il m'a amené à l'hôpital. On m'a fait des traitements et à l'issue, le médecin a détecté que c'est une intoxication alimentaire.
Au complexe universitaire pédiatrique de Bangui, au moins 2 à 3 cas de contamination alimentaire sont enregistrés par semaine. Dr Dex Telokoshkomba, oncologue pédiatre, évoque les cas accueillis et examinés dans ce centre hospitalier de référence.
C'est plus fréquemment qu'on reçoit ces malades, vu le niveau socio-économique de ses parents. Effectivement, c'est même difficile de faire le diagnostic à l'heure où on est. D'autres utilisent les médicaments modernes pour essayer de faire le lavage rectal de leur enfant. Alors, il faut comprendre que avec cette dose, comment un enfant, un nourrisson de deux mois, de 4 mois, peut survivre avec cette eau comme ça. Et pour d'autres, parfois, ils utilisent les feuilles de tomates ou d'autres plantes, par exemple, appelées parfois le plant de l'ivaquine, pour non seulement faire le lavage, mais parfois administrer à leur enfant pour traiter une fièvre, comme ils pensent toujours à une fièvre comme étant une pathologie.
Jeff Murphy Barès à Bangui pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez toujours le magazine Santé sur la DW et nous sommes toujours en compagnie du professeur Nicolas Barrault, microbiologiste depuis Ouagadougou. Professeur, comme vous l'avez écouté dans ce reportage, certains parents utilisent des plantes pour soi-disant laver le ventre de l'enfant. Est-ce que c'est conseillé en cas de contamination alimentaire?
Je suis un peu, j'allais dire un peu dans l'embarras face à cette question, parce que c'est vrai qu'il y a un savoir-faire traditionnel que les Africains détiennent, mais faut-il que ce savoir-faire réellement réponde aujourd'hui à l'attente des populations et aussi à ceux qui l'appliquent? Il y avait dans le temps quand même un certain nombre de plantes dont on reconnaissait leurs vertus médicinales, on connaissait leur aptitude à faire ceci ou cela, mais les choses ont petit à petit changé et je dirais, face à ce que vous venez de dire, il y a lieu de faire très très attention. Et je pense qu'aujourd'hui, la médecine dispose quand même d'outils, de spécialistes très, j'allais dire, aguerris à toutes ces questions d'infection liées à de tels agents, on peut s'adresser à des services de santé pour avoir un diagnostic clair afin de prendre des mesures adéquates pour éviter, en tout cas, de traitement de ces problèmes d'infection. Parce qu'aujourd'hui, vous allez prendre une plante et on ne connaît pas en réalité ses effets secondaires. Je n'ai pas dit que les plantes n'ont pas de vertu médicinale, mais il y a une question de dose. Quelle est la dose qu'il faut utiliser? Et quel est l'état physiologique de la personne à laquelle vous administrez ces plantes? Donc, il y a beaucoup de questions, alors que la médecine moderne, quand même, permet d'établir une base, quand même, par rapport à toutes ces questions, avant d'administrer un traitement adéquat.
Vous l'avez dit au début de cette émission que les aliments peuvent être contaminés tout au long de la chaîne de production, de distribution et de préparation de ces aliments. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut réduire le risque de contamination des aliments?
Moi, j'aime le dire simplement, nous devons regarder les aliments, comme on aime le dire, la FAO même le dit, de la ferme à l'assiette. Il faut que la matière première soit d'abord de bonne qualité et que l'opération de transformation soit faite en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Et au niveau des consommateurs, il va falloir faire également, parce qu'un aliment peut être sain, mais au moment de consommer, le consommateur adopte un comportement non hygiénique, souillant alors l'aliment. Je m'adresse là à la restauration collective. Et c'est généralement par là que nous avons beaucoup de problèmes de contamination. Généralement, à domicile, il y a peu de cas de contamination. Mais la restauration collective, il y a beaucoup de cas de contamination.
Justement, qu'est-ce que vous faites, vous, professeur Nicolas, dans votre pays, le Burkina Faso, pour assurer la sécurité alimentaire, notamment au niveau des restaurations?
Il faut dire que tout d'abord, il y a un grand travail qui a été mené dans ce sens. Je travaille avec une ONG qui s'occupe bien sûr de ce qu'on appelle le secteur informel de l'alimentation. Donc, constitué par ces bonnes dames, ces braves dames, je dirais, qui transforment, j'allais dire, 80 à 85% de nos productions agricoles en des aliments, mais n'ont pas vraiment la formation, la qualification ou ne sont pas bien outillés pour pouvoir mener à bien leur travail. Donc, nous avons, avec cette ONG qu'on appelle ONG ASMAD, mené des formations en mettant en évidence certaines contaminations. Et ça concernait toute la gamme des aliments vendus dans la ville de Ouagadougou. Et environ 4000 opérateurs ou opératrices ont été sensibilisés, formés aux bonnes pratiques d'hygiène. Et indépendamment de ça, moi j'anime beaucoup d'émissions pour pouvoir faire la sensibilisation à tout ce qui concerne l'hygiène et tout ce qui concerne comment préserver la qualité des aliments.
Professeur Nicolas Barreux, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien qu'on aborde rapidement l'aspect de la transmission de ces maladies de la viande animale à l'homme. Après la grippe porcine, la grippe aviaire et maintenant la COVID-19, comment réduire les risques de contamination de l'animal à l'homme?
Merci bien, parce que c'est une question très très importante et la question est traitée même dans un concept global que nous appelons le concept One Health, ça veut dire une seule santé. Dans ce sens, il faut dire que l'Organisation de la santé animale et l'Organisation de la santé de façon OMS ont entrepris vraiment beaucoup de choses ensemble. Alors, on dirait que, bien qu'il existe une incertitude quant à l'origine de certains virus, c'est le cas bien sûr de COVID-19, il y a toujours une incertitude conformément au conseil de l'OMS. Et à titre de précaution générale, je dirais que lorsque vous visitez ou lorsque vous allez sur un marché où il y a des animaux, ou lorsque vous partez sur un environnement où il y a des animaux, il convient d'appliquer les règles générales d'hygiène. Ça veut dire que vous devez vous laver régulièrement les mains avec du savon et avec de l'eau potable. Parce qu'on sait que vous allez tapoter certains animaux. Et vous ne savez pas, les animaux se roulent partout. Ils peuvent suer leur corps avec des micro-organismes qui peuvent être dangereux pour nous. Il faut éviter aussi de toucher les yeux, les nez, la bouche. Ou encore éviter tout contact, je dirais tout contact avec des animaux malades ou des produits d'origine animale souillés. Ça, c'est très important. Vous devez éviter également, comme les chiens, les chats, les rongeurs, les oiseaux, les chauves-souris, il faut éviter cela. Parce que ça passe par là. C'est la viande de certains animaux qui sont contaminés. Et lorsque nous les préparons, que nous les manipulons mal, nous pouvons nous contaminer. Donc, il faut respecter alors, je dirais, les bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire ces aliments.
En gros, hein, tout le monde, tout au long de la chaîne de production, du producteur au consommateur, a un rôle à jouer pour s'assurer que les aliments que nous consommons ne causent pas de maladies. Merci, professeur Nicolas Barrault. Je rappelle que vous êtes microbiologiste, spécialiste de l'hygiène alimentaire et responsable du laboratoire d'épidémiologie et de surveillance des virus et bactéries transmissibles par l'eau et les aliments à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Si vous voulez réécouter cette émission, il vous suffit d'aller sur notre site internet dw.com/français/médiathèque. La semaine prochaine, nous parlerons des choix alimentaires et des régimes. D'ici là, n'oubliez pas, tout ce qui nous rend heureux est bon pour la santé. Au revoir. Radio Mali.